c'est le cours sur les psaumes du 19 février. Alors, dans les premières leçons, les deux premières leçons, c'était des leçons d'introduction générale, un peu au genre psalmique, et puis à la finesse d'écriture des psaumes. La troisième leçon, nous avons vu le psaume 1, et puis la leçon passée, le psaume 2. Et le psaume 1, et nous, c'était le psaume parfois appelé des deux voix, donc la voix de l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur, et d'autre part celle de l'impie, avec des images fortes, vous vous en souvenez, d'un côté l'arbre verdoyant planté près des eaux qui donne du fruit en son temps, et puis au contraire l'impie, le méchant, comme la balle qu'emporte le vent et dont le chemin va se perdant. Tandis que donc c'est une invitation pour l'homme à se situer et à choisir la voie de la vie qui consiste à aimer et suivre la loi du Seigneur. Le psaume 2 nous mettait en présence cette fois-ci de deux camps, si l'on peut dire. D'une part, il y avait le Messie de Dieu, et envisagé aussi dans son caractère filial. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré, on se souvient de ce verset important. Donc, le Messie royal de Dieu, le Seigneur Dieu étant lui-même le roi de la terre, et de l'autre côté, ceux qui se rebellent contre le Messie, loin de Yahvé. Mais ça se terminait aussi, le psaume 2, par le même mot que le premier mot du psaume 1, une béatitude, par rapport à ceux qui, précisément, s'attachent au Messie de Dieu. Nous passons, si vous voulez, à un psaume qui est important aussi pour ses résonances dans le Nouveau Testament, qui est le psaume 8. C'est un psaume dont on connaît bien le refrain de Gélino. « Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom partout l'univers ou par toute la terre. » Ça dépend un peu des traductions. Bien. Et c'est un psaume que l'on prie dans l'office, à l'office du samedi matin, de la deuxième et de la quatrième semaine du psautier. Je le lis d'abord dans une traduction courante, qui est celle que vous avez sur votre feuille, dans la colonne de gauche au milieu, qui est la traduction justement tirée du livre de l'office, la traduction la version écuménique liturgique. Alors il y a un premier verset, vous voyez, ça commence au verset 2. Le premier verset, vous le trouvez, là, le père Adermakers, dans le bas de la page, lui, le mentionne. Il est un peu en dehors du psaume, au sens où il donne le titre. Vous vous souvenez, le psaume 1 et le psaume 2 avaient comme caractéristique de démarrer d'emblée, il n'y avait pas de titre, contrairement au psaume suivant. Voilà qu'ici, on a un psaume, comme la plupart du psautier, qui a un titre, et qui dit « Pour le coryphée, le meneur de chant, sur la guittite, c'est un instrument de musique, psaume de David. » C'est ce que dit le verset 1 dans l'hébreu. Hein. « L'amenatseach, ça veut dire pour le meneur, al-agittite, vous entendez, sur la guittite, mismor, ça veut dire un psaume, le David, un psaume de David. » Alors après, on entre dans le psaume lui-même, et je le lis, cette fois-ci, dans la version liturgique, écuménique. « Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. » Donc le verset 10, hein, qui est pour faute de place, que j'ai mis un petit peu à droite, encadre avec le psaume 2, comme refrain, un peu l'ensemble du texte psalmique. Voilà pour une première lecture. Alors je vais suivre un peu la feuille de route en commentant. Le titre donc, pour le coryphée, sur la guittite, psaume de David. On se demande si c'est peut-être l'œuvre d'un chantre lévite du temple. Les lévites de la tribu de Lévi assuraient un service, justement un service de la liturgie, un service de type sacerdotal. Le refrain au Seigneur notre Dieu, peut-être on s'est demandé s'il ne dénotait pas un usage précisément dans le cadre du culte, où l'assemblée reprend en dialoguant peut-être, c'est toujours des hypothèses, mais quand on cherche à voir dans quel cadre un psaume était utilisé, on prête attention, en dialoguant peut-être avec le soliste, celui qui dit « je » au verset 4. Le verset 4, la traduction traduit « avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts », mais littéralement dans le texte, vous voyez dans la traduction plus littérale, par exemple, du père Adermacher, en bas, « quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts ». Il y a un « je » qui s'exprime là. De même, dans la version de Jacques Vermeulen, qui est un bon connaisseur de l'écriture et des psaumes, qui est décédé il y a un an et demi, 2 ans, et vous voyez, il traduit lui aussi le verset 4, « quand je vois tes cieux, ouvrage de tes doigts ». Donc il est possible qu'il y ait eu un soliste à un moment donné, là-bas, et en dialogue avec une assemblée, puisque on dit, le psaume ne dit pas au Seigneur mon Dieu, il dit au Seigneur notre Dieu, il est grand ton nom, donc il y a un « nous » là aussi qui s'exprime. Donc peut-être un dialogue entre l'assemblée et un soliste qui dit « je » au nom, mais on sent bien que c'est un « je » aussi qui s'exprime un peu au nom de tous. L'époque de rédaction, on constate en tout cas que la thématique de la place de l'homme dans la création, on sent bien qu'en arrière-fond, il y a des passages du livre de la Genèse relatif au récit de la création. Le ciel, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles, ça fait penser à la création des luminaires dans les premières pages de la Genèse. Et puis, il y a aussi la création alors de tous les vivants, évoqué quand même au verset 8-9, les troupeaux de bœufs, de brebis, les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux, autant de réalités du monde animal créés qui sont évoqués dans le récit de la Genèse. Hein, par exemple, j'ai repris là sur mon texte le verset qu'on trouve en Genèse au chapitre 1, les versets 26-28, « Emplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, tous les animaux qui rampent sur la terre. » Or, le récit de la Genèse, même s'il nous rapporte à l'origine de l'humanité, est écrit peut-être relativement récemment. Je veux dire, il n'est pas écrit, par exemple, comme certains psaumes, à l'époque du roi Salomon, de David lui-même, c'est au Xe siècle avant le Christ, mais le récit de la Genèse, il est écrit plutôt autour de l'exil. Alors, les spécialistes discutent un petit peu avant l'exil ou un peu après, ça veut dire plutôt au 6e, 5e siècle avant le Christ. Et donc si le psaume recueille des termes qui font allusion à la Genèse, mais forcément il n'a pas été écrit plus tôt. Donc on pense à une époque de rédaction autour de l'exil, un peu avant ou un peu après. Alors le genre du psaume, on voit bien qu'on a une tonalité d'émerveillement. Le psaume 2, comme nous avons vu la fois passée, est un peu rude, hein, ceux qui se rebellent contre Yahvé et son roi. Ici, on entre dans un genre littéraire qui rentre dans le climat de la louange. Donc il y a une attitude d'accueil émerveillé de Dieu, puisqu'on le nomme au Seigneur notre Dieu, hein, qui s'encadre le psaume, et on lui parle, tu, etc., qui est émerveillé de Dieu, de sa création. On parle quand même l'ouvrage de tes doigts au verset 4, les œuvres de tes mains, au verset 7, donc ce que Dieu a fait, c'est aussi des allusions évidemment au récit de la création. Mais aussi de ce que nous y sommes par Dieu, c'est-à-dire il y a la place de l'homme aussi. Donc il y a Dieu comme créateur, il y a le fruit de son œuvre, sa création, et puis au cœur de cette création, comme d'ailleurs au cœur du psaume, dans la disposition du psaume, on a l'attention qui se porte sur nous, sur l'homme. D'où un cri de louange qui est plutôt de genre hymnique, se rapportant ici à Dieu, créateur, peut-être aussi Dieu, non seulement dans sa grandeur de créateur, mais dans ses interventions dans l'histoire, il est quand même fait mention au verset, à la fin du verset 3, « Rempart que tu opposes à l'adversaire où l'ennemi se brise en sa révolte. » Donc la grandeur de Dieu est aussi de, on dit, de confondre ses ennemis. C'est un genre, ce genre de psaume hymnique peut comporter un invitatoire, ici ce n'est pas le cas, c'est-à-dire « Venez, chantons pour le Seigneur », donc il y a quelqu'un qui invite à la louange. Ici ce n'est pas dit, on prend d'emblée le refrain de louange. Puis le corps du poème est une finale bien identifiable ici, c'est clair, qu'en reprenant le verset 2, la finale montre qu'on boucle un peu un tout. Alors il y a quelques questions textuelles, je ne vais pas entrer trop dans la détail technique, mais pour que vous voyez l'enjeu sur certains versets un peu plus délicats. Le début du verset 2b, c'est-à-dire ce qui est rendu dans la traduction par « Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants des tout-petits. » Si vous regardez la traduction de Jacques Vermeulen, là à droite, c'est traduit un peu différemment. « Je veux chanter ta majesté dans les cieux. » Et surtout, le père Radermakers, vous voyez, permet qu'on exalte ta splendeur par-dessus les cieux. C'est quand même un peu différent. Alors d'où viennent, c'est que c'est un verset un peu délicat, je reviens à ma feuille de route. Donc il dit « Asher tena odeka ». Littéralement, si on prend l'hébreu tel qu'il se trouve là dans le texte, si je traduis les trois mots là, que j'ai transcrits en lettres, non pas hébraïques, mais de notre alphabet, « Asher tena odeka ». Asher, c'est un relatif qui veut dire « qui ». « Tena », c'est un verbe à l'impératif « donne », en priant. Et puis « ta majesté ». Autrement dit, ça donne dans l'hébreu, en première lecture, une suite qu'on comprend difficilement. Dès lors, il y a eu des solutions et très diverses. Alors vous savez que quand il y a une difficulté dans le texte hébraïque, ça peut venir de deux choses. Le texte hébraïque a d'abord été écrit avec les consonnes. Et les voyelles qui étaient prononcées n'étaient pas écrites au départ. C'est plus tard que les voyelles ont été ajoutées au texte. Ce qui veut dire que, généralement, à la vue des consonnes, les gens avaient l'habitude de vocaliser, de mettre des voyelles A, E, I, O, U. Il y avait une tradition et c'était assez homogène, mais quand ce n'était pas fixé, parfois on a vocalisé un petit peu autrement. Et vous savez que mettre des voyelles différentes peut changer le sens d'un mot. Apportons ou apporta, c'est pas la même chose. Les consonnes sont les mêmes, mais la finale vocalique est différente. On pourrait trouver d'autres exemples. D'où, on dit, on garde le texte, les consonnes, mais on pourrait peut-être le vocaliser un peu différemment. Et d'où ça donne un autre sens. Et puis aussi, dans les manuscrits, la coupure entre les mots, l'espace qu'on laisse entre les mots n'était pas toujours bien identifiable, ça dépend du scribe. Et donc, parfois, une suite de consonnes, mais on peut la découper à une ou deux lettres près différemment. Et donc, ça donne des choses différentes. Je vous passe les détails techniques. J'ai mis dans le petit tableau diverses traductions. Et puis à droite, je ne m'y arrête pas, c'est pour ceux qui connaîtraient l'hébreu, qui comprennent l'explication qu'on donne à une telle proposition. Les diverses traductions, je les lis simplement. « Car c'est élevé ta magnificence. » C'est ainsi que la traduction grecque a compris le texte hébraïque. Elle a traduit « Ta magnificence s'est élevée ». La Bible du rabbinat traduit « Car tu as répandu ta majesté sur les cieux ». La Tobe traduit « Elle » et on comprend la terre qui vient d'être mentionnée, qu'il est grand ton nom par toute la terre, eh bien la terre, elle chante ta splendeur. Ou bien le psautier liturgique traduit « Ta splendeur est chantée ». Ou bien certains comprennent « Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom » et on renverrait au nom pour dire « Lui ton nom qui redit ta majesté ». Et puis il y a d'autres traductions qui discerne dans le texte aussi la présence qui dit une première personne, je vais chanter ta majesté, je veux chanter ta majesté. Et ce sont toutes des propositions quand même de Bible qui chaque fois sont des Bibles qui ont un certain crédit, hein, que ce soit la Bible de Jérusalem, la Tobe, le psautier liturgique, Dorme, c'est la fameuse traduction dans la Pléiade dont je vous ai déjà parlé, et Jacques Vermeulen qui était un bon connaisseur des psaumes. Vous reconnaissez partout qu'il n'y a pas de doute sur l'idée de grandeur, qu'elle soit rendue par magnificence, majesté, splendeur. Là, c'est commun à toutes les traductions. Et puis, il y a une dernière traduction, c'est celle que propose le père Jean Habermakers, mais c'est intéressant de voir, parce qu'il connaissait bien les choses aussi, puis l'explication qu'il en donne. « Permet qu'on exalte ta splendeur. » À droite, vous avez l'explication technique, je ne m'y attarde pas. « Permet qu'on exalte ta splendeur. » Le résumé, d'où on a quand même des accents interprétatifs différents. Et entre autres, comment est-ce que Jean Habermakers alors comprend la traduction qu'il propose et qu'il retient? Il essaye de déployer cette traduction pour la suite du texte. Il dit, si le verset veut dire « permet qu'on exalte ta splendeur », c'est le psalmiste qui dirait ça donc, Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre, permet qu'on exalte ta splendeur par-dessus les cieux, et même de la bouche des petits, des bébés et des nourrissons. Hein? C'est le poète qui a pris la liberté d'abord de dire la grandeur de Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers, et puis qui se reprend en demandant la permission de continuer son poème. Qu'il est grand ton nom, et il prend conscience que qui suis-je pour le louer, permet quand même qu'on l'exalte ton nom, et ça peut même venir de la bouche de bébé, de nourrisson. Cette permission, je cite hein, simplement Jean Habermakers, cette permission va le qualifier comme chantre de la divinité et aussi de la grandeur de l'homme, puisque ça va être au cœur du poème, hein. Tu l'as fait un peu moindre qu'un dieu, tu l'as couronné de gloire, d'honneur, et chant de la divinité, de la grandeur de l'homme, une grandeur qui se reçoit de Dieu, et tout comme la permission de le chanter se reçoit de Dieu, selon cette traduction. Ceci, continue-t-il, fait mieux apparaître le contraste entre le poète, qui est un tout petit, puisqu'il veut chanter le Seigneur, tout comme la bouffe des nourrissons peut le faire, voilà, qui est un tout petit, s'il demande la permission, et l'ennemi qui veut paraître grand, mais dont l'opposition à Dieu est immédiatement disqualifiée, puisque le texte dit une force qui va vaincre les oppresseurs pour arrêter l'ennemi et le vengeur. Voyez, c'est un passage difficile, traduit différemment, mais comment d'une proposition qui se défend d'un point de vue linguistique, Jean Habermakers déploie le sens qu'il y voit. C'est la difficulté textuelle principale, avoir la variété des traductions. Il y en a une autre petite, c'est « De la bouche des tout-petits et de nourrissons, est parfois rattaché à ce qui précède, à savoir, jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des petits, des nourrissons, des tout-petits, mais aussi, et c'est ce que la traduction liturgique rend un peu, en mettant deux points. Par vous des enfants, des tout-petits, deux points. Donc ça a quelque chose à voir avec la suite. Rempart que tu opposes à l'adversaire ou l'ennemi se brise dans sa révolte. C'est-à-dire que la louange qui vient de la bouche de tout-petit serait, paradoxalement, ce rempart qui défend de l'adversaire. Les tout-petits, dans leur louange, sont capables de faire rempart par rapport à l'adversaire de Dieu qui se croit le plus grand. Dans ce sens-là qu'on le rattache parfois à ce qui précède ou à ce qui suit. Alors, je signale un arrière-fond d'Ancien Testament, il y en a plusieurs, mais j'ai retenu l'expression qu'on trouve au livre de la Sagesse. La Sagesse, eh bien, elle rendit claire la langue des tout-petits. Elle est capable faire parler les tout-petits. Sagesse, au chapitre 10, là, le verset 21. Au verset 5, donc je suis en train de repérer les points un peu plus difficiles au point de vue traduction. Comment traduire ou bien à quel membre de phrase rattacher telle insistance. Au verset 5, c'est une observation là pour entrer dans le sens du texte, deux appellations de l'homme suggèrent sa petitesse. Qu'est-ce que l'homme que tu en penses, que tu penses à lui? Le fils d'un homme pour que tu en prennes souci. Le français n'a qu'un mot pour rendre les deux. Mais dans l'hébreu, c'est deux mots différents pour le premier homme et le second dans le verset 5. D'abord, qu'est-ce que l'homme? Le premier, c'est ma enosh. Enosh, ça veut dire c'est l'homme dans la fragilité de sa condition humaine. Ça désigne l'homme la fragilité de sa condition humaine. Parfois, dans le Nouveau Testament, vous avez l'expression « la chair et le sang » pour signifier ça. Hein, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas simplement ta condition humaine. Donc, Enoch, c'est l'homme dans l'humilité de sa condition humaine. Et puis, il y a une deuxième manière de le nommer. Le fils d'un homme, Enoch Kutiskereu, ou Ben Adam. Ben, ça veut dire le fils. Hein. Adam, c'est l'Adam. Le fils d'Adam. Là, on le nomme par le nom de l'Adam de la Genèse. Mais vous savez que le nom même d'Adam a aussi quelque chose qui connote de soi l'humilité de l'homme créé, puisque Adam, c'est la même racine que la glaise. C'est celui, littéralement, qui est tiré de la glaise, du sol. Donc, on voit comment, à travers deux termes différents, le verset 5 s'interroge sur cette condition modeste de l'homme. Qu'est-ce que l'énoche, l'homme fragile, que tu penses à lui, et le fils d'un homme, le fils d'Adam, que tu en prennes souci. Alors au verset 6, pourtant tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu. Tu l'as abaissé de peu par rapport au... et le terme utilisé pour Dieu, c'est Elohim, qui dans l'hébreu est un pluriel, et vous retrouvez la racine El. Lorsqu'on dit Gabriel, ça connote, c'est un abréviatif d'une désignation de Dieu, qui peut être sous cette forme de Elohim au pluriel. Gabriel, Dieu est mon héros. Raphaël, Dieu est celui qui soigne. Michael, Miki, comme Dieu, qui est comme Dieu, donc elle, et donc c'est le terme ici utilisé, enfin là c'est, elle c'est l'abréviatif, tout comme vous avez pour Yahvé, hein, que les juifs ne prononcent pas, mais l'abréviatif c'est Yah, le début, Alléluia, ça veut dire louer Dieu, et bien pour Elohim, l'abréviatif c'est elle aussi, mais ici on a le terme complet dans le texte du psaume, tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, Elohim. Le pluriel, Elohim, qui est une forme abrégée, dénoterait les êtres divins qui constituent la cour céleste. Au départ, C'est une appellation qu'on trouve utilisée en partie par les peuples voisins aussi. Mais qu'alors la Bible récupère pour en venir à désigner, à proprement parler, son Dieu. Dans la Genèse, il y a encore question de fils d'Élohim, qui seraient des êtres divins assimilés un peu aux anges. Et d'ailleurs, la Septante, et on verra l'importance, donc la traduction grecque de la Bible, a rendu ce terme, un peu moins qu'un dieu, un peu moins que les Élohim, littéralement, par un peu moins que les anges. Et ça, l'auteur de la lettre aux Hébreux va bien l'entendre et réfléchir à partir. Tu l'as fait un peu moins que les anges, dit la Septante. Donc l'homme, juste peu inférieur à des êtres quand même très, très prestigieux. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Elohim, et quand c'est un pluriel, hein, que les Elohim ou que les anges, selon la Septante, le couronnant de gloire est donc. Voilà pour ce qui est de quelques termes un peu plus décisifs. Le vocabulaire, il y a le champ lexico et sémantique. Lexico, ça veut dire on s'appuie sur des mots même qui reviennent, et sémantique, ça veut dire même si le mot ne revient pas, ça appartient au même domaine de sens, par le jeu des synonymes par exemple. La grandeur divine, Seigneur notre Dieu, grand ton nom, splendeur, force, rempart, et puis un peu moins que un Dieu. Et c'est surtout au début qu'il est appuyé. Par ailleurs, face à cette grandeur divine, il y a la petitesse de l'homme, mais aussi sa grandeur. Il y a des termes de faiblesse, les tout petits, les nourrissons, humains, c'est ce que je vous disais, le terme énoche, qu'est-ce que l'homme, fils d'Adam. Et puis, l'homme qui est capable aussi de résister à Dieu, l'adversaire, l'ennemi, les questions de révolte, là c'est le verset 3, le final du verset 3. Mais aussi, par contraste, il y a en homme cette réalité de noblesse. À la fois, tu l'as fait un peu moins qu'un Dieu, mais tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu mets toutes choses à ses pieds, et ça c'est la grandeur de l'homme. Donc, l'homme à la fois, à première vue, si petit, si modeste, insignifiant, en infiniment petit, et pourtant, si grand au regard de Dieu. Il y a les images corporelles, pour Dieu ou pour l'homme. Vous voyez quand même qu'il est question de la bouche des tout petits, l'ouvrage de tes doigts, au verset 4, pour parler à Dieu, l'œuvre de tes mains, au verset 7, et pour l'homme, tu mets toutes choses aux pieds de l'homme et tu l'as couronné, ce qui connote aussi la tête. Donc on voit bien que la dimension corporelle est présente dans le psaume. Et puis il y a tout le vocabulaire cosmique qui renvoie à l'œuvre de la création. Il est quand même question par toute la terre, et puis peu après arrivent les cieux, la lune, les étoiles, et puis on a vu les animaux divers en leur lieu, les poissons, les oiseaux, Je passe à la page 18. Alors, les thèmes, personnages et la manière de parler. Le psaume reconnaît l'homme situé face à Dieu et par Dieu dans son rapport à la création. Parce que vous voyez bien, le verset 2 et le verset 10 célèbrent Dieu. Et puis, il y a l'œuvre de la création, et au milieu, œuvre de la création chantée par la bouche des enfants des tout-petits, et puis au milieu est évoqué ce contraste de fragilité et de grandeur de l'homme. Voilà. Donc, le psaume reconnaît l'homme situé face à Dieu et par Dieu dans son rapport à la création, le psalmiste, qui est peut-être le jeu, pas. Et l'assemblée dont il est le porte-parole, notre Dieu, s'adresse à Dieu en deuxième personne. Vous voyez que le corps du psaume n'arrête pas de s'adresser à Dieu. Ta splendeur, tu as fondé tes cieux, tu fixas la lune, les étoiles, et de même, on continue, il y a 12 marqueurs de la deuxième personne. Donc on n'arrête pas de parler à Dieu. Dès le début, on s'est adressé à lui en disant, qu'il est grand ton nom partout l'univers, et voilà que on s'adresse constamment à lui. Sur le mode exclamatif, qu'il est grand ton nom, ou interrogatif, étonné, qu'est-ce que l'homme, pour que tu puisses en penser à lui. Et vous remarquerez que le même que joue en deux sens différents en ce sens, et le père Rader Macias a souligné cela. Au verset 2, vous voyez qu'il traduit Yahvé, notre Seigneur, que formidable est ton nom. Ça rend le terme hébraïque ma, que, mais qui est ici exclamatif. Que il est grand, combien il est grand. C'est un ma exclamatif. Et puis au verset 5, on a le même terme, exactement, ma dans l'hébreu, mais interrogatif. Quoi l'homme pour que tu penses à lui? Ma enosh. Donc, à que, tantôt exclamatif, tantôt interrogatif. Ou bien le style peut se faire exclamatif, interrogatif ou poser des affirmations. Alors on parle à Dieu pour célébrer sa grandeur, bien sûr, reconnu dans son action créatrice de toutes choses et à l'intérieur de cette création et à l'homme, et en faveur de l'homme qui lui est évoqué en troisième personne. Qu'est-ce que l'humain, le fils d'homme, on parle de lui en termes de « il », de troisième personne. Il y a des verbes qui égrènent l'action divine. On parle à Dieu pour célébrer ce qu'il a fait. On lui dit « Tu as fondé l'univers, tu fais cesser l'ennemi. » Vous voyez au verset 3, si je prends la traduction du Père de Maquert, « pour faire chômer, cesser l'ennemi et le vengeur. » Il a traduit « chômer » parce que c'est le verbe du Shabbat, pour mettre en repos, mettre un stop. Mettre à l'arrêt l'ennemi ou l'adversaire. Ce qui est traduit un peu plus souplement, l'ennemi se brise en sa révolte. Ou bien, je regarde comment Jacques Vermeulen a traduit, pour faire cesser, la fin du verset 3, pour faire cesser l'ennemi et le vengeur. Donc, tu as fondé, tu fais cesser l'ennemi, tu as fixé la lune et les étoiles, tu penses au Seigneur, à l'homme, tu en prends souci, tu l'as voulu un peu moins qu'un Dieu, tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Vous voyez, si on suit cette série des verbes, on voit qu'est décliné ce que Dieu fait pour l'homme. Non seulement ce qu'il a fait dans l'univers, tu l'as fixé, mais pour l'homme, tu penses à lui, tu en prends souci, tu l'as voulu un peu moins qu'un Dieu, tu l'établis, tu le mets. Donc, si l'homme est au centre du propos, puisque c'est quand même les versets 5-6 là, qui sont centrés sur l'homme, c'est selon la grandeur et la place singulière que Dieu lui assigne en dépit de sa fragilité. Qu'est-ce que l'homme est si petit? Eh bien, du fait de ton action en sa faveur, eh bien, c'est là sa vraie grandeur. Donc le psaume, c'est la grandeur de Dieu créateur, mais aussi la grandeur de l'homme en tant qu'il se reçoit dans sa grandeur de Dieu. Alors le mouvement du psaume, on peut l'appréhender selon divers points de vue qui ne s'excluent pas. Si on suit simplement les strophes dans le découpage de la version liturgique, telle que vous l'avez sur la feuille. Il y a le refrain, et puis on distingue quatre strophes de quatre stiques. Puisqu'au sujet de ta splendeur est chanté, par la poésie d'un frère tout petit, on part que tu opposes à l'adversaire, que l'ennemi se brise à sa révolte, ça fait une strophe, et ainsi de suite. La première strophe célèbre, le verset de B3 célèbre la grandeur de Dieu, mais qui est accessible aux petits, et qui est invincible par ses ennemis. Le verset 4-5, on commence à se demander qu'est-ce que l'homme comparé aux cieux dans le dessein divin? Voir ton ciel, la lune et les étoiles, qu'est-ce que l'homme? Première vue, c'est pas grand-chose. 6-7 donne la réponse. Eh bien, tu l'as voulu pourtant un peu moindre qu'un Dieu, couronné de gloire et d'honneur, et tu mets toutes choses à ses pieds. Ça, c'est une allusion au récit de la création. Soumettez la création. Et qu'il dit à Adam et Ève. Ça, c'est une manière, et donc c'est la grandeur de l'homme, et puis on déploie cette grandeur au verset 8-9, la quatrième strophe de l'homme qui domine sur le monde animal. On peut discerner certains parcours descendants de la création. Au début, au verset 2, après le refrain, jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée. On parle. Et même au-dessus des cieux. Et puis les cieux, la lune, les étoiles, puis on arrive à l'homme, et enfin on arrive au règne animal qui est assujetti à l'homme. C'est une manière de voir les choses. Certains discernent un certain parcours ascendant qui concerne l'homme. On parle des tout petits, des nourrissons, puis de l'homme, fils d'Adam, mais presque un dieu couronné de gloire et d'honneur et qui reçoit de se voir assujettir toutes choses. Donc la figure de l'homme grandit dans le psaume. On parle de ça. L'impression de faiblesse, de petitesse qu'il donne, et puis, par Dieu, on déploie sa grandeur. Le père Jean-Radin Macaire propose aussi une certaine structure. C'est ce qui est repris sur le tableau de la partie inférieure de la page des textes. Une forme de concentrie, c'est-à-dire, bien sûr, la reprise du refrain au début et à la fin se répond au Seigneur notre Dieu, à l'identique, qu'il est grand au nom partout de la terre. Les cieux sont mentionnés au début, les cieux, l'oiseau des cieux, et puis l'œuvre de tes doigts, à quelle répond les œuvres de tes mains, en 4 et 7, et il identifie le centre en D, et bien, dans cet univers ainsi déployé de part et d'autre, qu'est-ce que l'homme, si peu de choses, et pourtant. C'est ça le contraste central, donc c'est vrai qu'on peut voir que le centre un peu du message du psaume est à la fois en D, la grandeur de l'homme, et à ses extrémités, puisque cette grandeur, il la tient de Dieu, dont le nom est grand par toute la terre. Ce schéma visualise la place de l'homme au centre de l'univers, et cela de par Dieu, qui est nommé au début et à la fin. Alors la sonorité des versets 5-6, on peut les identifier comme un peu le centre du message concernant ce qui est dit de la grandeur de l'homme, est très travaillé. Dans son introduction, c'est un exemple que j'avais pris. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu t'en souviennes, que tu le dises, je vous les relis dans l'hébreu, le verset 5 et le verset 6. Ma enosh ki tiskorennu, ou ben adam ki tifkodennu. Deux vers qui se répondent presque les mêmes. Et puis le 6, vat te chassereu me hat me elohim, ve kavot vada te hattorehu. Le premier mot et le dernier verset, le premier mot et le dernier mot du verset 6, vat te chassereu et vat te hattorehu. Il y a juste une consonne. Un peu de différence. Donc on sent que c'est très travaillé au point de vue de la forme aussi, ces deux versets 5-6. Ce qui appuie l'importance que l'auteur y accorde. En dominant la création, l'homme participe à la royauté de Dieu. Le fait de se voir tout placé sous ses pieds relève notamment d'un scénario d'investiture royale de l'homme par Dieu. Tu en as fait presque un dieu. Tu le couronnes, c'est quand même de gloire et d'honneur, c'est quand même un vocabulaire assez royal. Tu le fais dominer, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Alors, le fait que les choses soient mises aux pieds de l'homme dans la création, alors joue en parallèle avec ce que dit un autre psaume important. Le Seigneur dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de ton trône. Et on va voir que l'auteur de la lettre aux Hébreux, je viens dans un instant, joue sur ce rapport entre les deux psaumes. Ça va être intéressant. Je dis encore un mot du refrain psalmique. Seigneur notre Dieu, je ne vais pas trop entrer dans les détails pour avoir le temps de voir les interprétations dans le Nouveau Testament qui sont importantes, mais dans l'hébreu c'est Adonai Adonai nous. C'est-à-dire, le premier mot qu'on lit, c'est le tétragramme, les quatre lettres qui désignent, mais qu'on ne prononce pas en hébreu, Yahvé, Yahovah. Hein? Mais qu'on prononce, que le juif est appelé à prononcer par un autre mot qui veut dire notre maître, le Seigneur, pour ne pas prononcer le nom divin comme tel. Donc, il lit, on voit visuellement le tétragramme et on dit Adonai. Et puis on lit le second mot, et là on lit ce qui est écrit, c'est Adonai-nous. À ce moment-là, on prend le terme au Seigneur, notre Seigneur. Si je... Donc l'hébreu joue sur la prononciation orale du tétragramme, Adonai, et puis sur le mot écrit, et qui pour le coup se prononce comme il est écrit, Adonai-nous, qui veut dire notre Seigneur, le nous étant le traduit par notre en français. Donc le psaume démarre sur Adonai, Adonai-nous. Mais il faut savoir que dans le premier Adonai, en fait, ce qui est écrit, c'est les quatre lettres du tétragramme. Et qui reviennent au verset 10 aussi. C'est ce que j'expliquais un peu. Dans la Septante, le tétragramme, les quatre lettres de Yahvé, est d'habitude rendu par Kurios. Et ici, elle traduit curier, au curios et mon, elle remploie comme l'hébreu, elle l'utilise, comme ce qu'on entend dans l'hébreu prononcé, eh bien, utilise le même mot. Kyrier, c'est ce que nous disions, Seigneur, prends pitié, Kyrier, l'élection de ce mot-là. C'est dans la traduction grecque, c'est généralement curios qui rend le tétragramme du texte hébreu. Qu'il est grand ton nom, en fait, embré sur le dernier stick du psaume qui a précédé dans le psautier. Le psaume 7. Et le dernier stick du psaume 7 dit « Je veux chanter pour le nom du Très-Haut. » Et puis on passe au psaume 8, au Seigneur notre Dieu, qu'il est grand, ton nom. Le nom du Seigneur désigne la grandeur de sa personne et a manifesté ainsi sur la terre. Je donne un exemple, le psaume 83, « Qu'il cherche ton nom, Seigneur, et qu'il le sache. Toi seul, tu as pour nom le Seigneur, c'est le tétragramme, le Très-Haut, sur toute la terre, comme dans notre psaume. Donc l'appellation initiale au Seigneur notre Dieu est particulièrement importante. Alors nous venons aux échos dans le Nouveau Testament. Le refrain, au Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom sur toute la terre, trouve bien sûr cette attention portée au nom du Seigneur dans le Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire, c'est une manière de dire, ta personne, la grandeur de ta personne divine. Et d'ailleurs, nous disons sur la terre comme au ciel. Ici, il y a les cieux qui sont invoqués. Et par ailleurs, dans la prière sacerdotale de Jésus, en Jean, au chapitre 17, les versets, je prends une seconde ces versets, donc dans la grande prière de Jésus, eh bien, il s'adresse à son Père en évoquant la grandeur du nom de son Père. Je lis les versets que j'ai mentionnés. Jésus dit à ses disciples, en priant le Père, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » C'est le verset 6. Au verset 11, il dit, « Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. » Et puis, le verset 12, « Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. » Et enfin, le verset 26 encore, Jésus, en terminant sa prière, « Je leur ai fait connaître, » il parle toujours à son Père, à propos de ses disciples, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore. » Donc c'est un bel exemple de cette mention du nom comme désignant vraiment la profondeur de la personne divine. Le verset 3 est cité, donc le verset 3, rappelons-nous ce qu'il dit par la bouche des enfants des tout-petits qui t'est suscité une louange, eh bien est cité en Matthieu 21 de la bouche des tout-petits, des nourrissons, tu t'es préparé une louange. Ça, au moment où les enfants font une ovation à Jésus dans le temple, eh bien n'avez-vous pas lu il est dit tu t'es préparé une louange de la part des nourrissons, des tout-petits. Jésus répond par ce verset aux autorités qui sont en l'occurrence les adversaires, donc c'est la louange. Vous vous souvenez, les disciples disent, les autorités disent, mais enfin, fais taire les enfants qui vont jusqu'à crier dans le temple Hosanna, hein, à celui qui vient au nom du Seigneur, au nom du Seigneur d'ailleurs, hein, et on dit, mais fais les taire. Et Jésus répond, si eux se taisent, les pierres parleront. Et n'avez-vous pas lu par la bouche des enfants, c'est cité, donc c'est là que c'est cité. Et d'ailleurs, les foules, à ce moment-là, l'acclamaient, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les versets 6 et 7 sont importants dans le Nouveau Testament. Donc, qu'est-ce que l'homme? Tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu. Donc, il y a quand même une note un peu d'abaissement. Et pourtant, tu l'as couronné, et puis d'élévation, et reconnu par le Fils. L'hymne de Philippiens 2, Jésus qui était de condition divine, n'a pas craint de s'abaisser jusqu'à la mort, et la mort de la croix, on descend. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, etc. Donc ce mouvement d'abaissement, d'élévation, est dit du Christ, déjà en Philippiens 2. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que ce Messie qui va jusqu'à une mort sous la croix, et pourtant, c'est celui-là que tu as exalté. Jésus l'avait dit, qui s'abaisse sera élevé. C'est le même mouvement. Voilà. Eh bien, la lettre aux Hébreux a fort médité cela. Elle cite longuement le psaume 8, ses versets. Elle cite, et puis, elle dit, nous faisons, je cite le texte d'Hébreux, nous faisons une constatation. Celui qui a été abaissé quelque peu par rapport aux anges, les Elohim, hein, que la Septante rendait par ange, abaissé quelque peu, de peu inférieur aux anges, abaissé quelque peu par rapport aux anges, Jésus se trouve, à cause de la mort qu'il a soufferte, couronné de gloire et d'honneur. Autrement dit, l'auteur de la lettre aux Hébreux relie ce qui est dit de l'homme, hein, en clé christologique, en l'appliquant au Christ, celui qui est de peu inférieur aux anges et qui s'est abaissé quand même dans sa passion, jusqu'à se dépouiller, eh bien, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Le texte continue, « Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tout homme qu'il a goûté la mort. Dans le Christ se réalise la destinée de tous les fils d'Adam dont parle le psaume, et que le verset suivant d'Hébreux évoque en parlant de celui par qui et pour qui tout existe, et qui voulait conduire à la gloire une multitude de fils. » Et Hébreux, un peu plus loin, cite alors, à trois versets de là, le psaume 22, « J'annoncerai ton nom à mes frères au milieu de l'assemblée. » Autrement dit, ce que fait la lettre aux Hébreux, c'est de voir comment le Christ a été abaissé dans sa passion, a été élevé dans sa résurrection, et nous dit, eh bien, c'est pour que tout homme soit entraîné dans ce mouvement. Tout homme, à partir de sa faiblesse même, de son péché, hein, eh bien, dans la résurrection du Christ, il va être élevé, exalté dans sa vie. De même, Éphésiens 1, 22, « Tu as mis toutes choses à ses pieds. » Oui, je vous ai mis un petit paragraphe en retrait qui explique comment, mais ça c'est un petit excursus sur la lettre aux Hébreux, comment l'expression « de gloire et d'honneur », donc c'est deux termes, dans notre psaume, qui désigne la grandeur, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, eh bien, Hébreux, qui connaît très bien l'Ancien Testament, hein, se souvient que dans le texte de l'Exode, hein, il est question de la gloire et de l'honneur de Moïse en sa maison. Et puis, un petit peu plus loin, de la gloire et de l'honneur du frère de Moïse à Aaron, sa gloire sacerdotale. Dieu dit à Moïse, dans le texte d'Exode, « Fais approcher de toi Aaron ton frère, pour qu'il exerce mon sacerdoce. Tu feras pour Aaron ton frère des vêtements sacrés pour honneur et gloire. » Donc là, c'est l'honneur et la gloire du prêtre Aaron. Et évidemment, comme la lettre aux Hébreux s'intéresse, c'est son sujet central, au Christ grand prêtre, c'est le seul écrit du Nouveau Testament qui envisage le Christ comme grand prêtre, hein, il fait jouer toutes ces résonances, hein, et pour nous dire, ben, Christ a été couronné de gloire et d'honneur dans sa résurrection, et c'est ça qu'il intronise comme grand prêtre. Il joue un peu là-dessus. Donc, l'importance de ce binôme, gloire et honneur. Alors, tu as mis toutes choses à ses pieds et ressaisi en Éphésiens, qu'il applique à la victoire du Christ ressuscité. Il était placé bien au-dessus de tout nom qui puisse être nommé. Et le texte continue, Dieu a mis sous ses pieds, a tout mis sous ses pieds, et l'a constitué au sommet de tout être pour l'Église, laquelle est son corps, etc. Autrement dit, l'expression, tu as mis toutes choses à ses pieds, est ressaisie par Éphésiens comme la victoire du Christ au moment de sa résurrection. Les puissances de la mort, les ennemis, tu as mis toutes choses à ses pieds. Et 1 Corinthiens 15 le fait comprendre de la victoire finale du Christ. Au moment du retour du Christ, à ce moment-là, toute mort et tout ennemi du péché sera vaincu définitivement. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra dire, et c'est merveillé en disant à Dieu, tu as mis toutes choses à ses pieds. Ce que je veux dire, finalement, est assez simple, mais c'est quand même le génie aussi des auteurs du Nouveau Testament d'avoir à ce point bien entendu les résonances du psaume. Le psaume nous parle de la grandeur de l'homme au moment de la création. Dieu, il est dit de l'homme, il nous dit, tu as mis toutes choses créées sous les pieds de l'homme. Hein? Le monde, l'univers, pour qu'il domine, qu'il régisse la création. À bien entendre, dans le contexte écologique de nos jours. Mais on voit bien ce que ça veut dire de la grandeur de l'homme, capable d'être intendant de Dieu dans la création. Et puis, les auteurs du Nouveau Testament le comprennent, tu as mis toutes choses à ses pieds, notamment en lien avec le psaume 110, le Seigneur a dit, mon Seigneur siège à ma droite, je fais de tes ennemis le marchepied, etc. Tu as mis toutes choses à ses pieds, tu as mis tous les ennemis que sont la mort et le péché, il les domine déjà dans sa résurrection. Mais l'histoire continue pour nous. Et il faut que ce combat de se mettre l'ennemi, mettre toutes choses à ses pieds, continue dans le temps de l'histoire, pour aboutir finalement au terme de l'histoire, à la parousie. Et c'est ce que fait le chapitre de 1 Corinthiens 15, au moment où on pourra dire, lorsqu'il se sera soumis toutes choses, le Christ victorieux, eh bien à ce moment-là, il remettra pleinement la royauté à Dieu son Père, afin que tout soit, que Dieu soit tout en tous. Autrement dit, ce mouvement, on parle d'abord de l'homme à la création, et puis on parle du Christ à la résurrection, et on parle du Christ au terme de l'histoire. Mais on sent bien que nous sommes entraînés dans sa victoire. Donc la petitesse de l'homme, et sa petitesse liée aussi, pas seulement à sa fragilité, mais à son péché, eh bien, va aboutir dans le Christ à couronner l'homme de gloire et d'honneur. Ce qui est dit dans le psaume de l'homme créé au début, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, sera encore plus vrai dans le couronnement de la résurrection et du retour du Christ, pour le dire autrement. À ce moment-là, on pourra dire, eh bien, ton œuvre de création, tu l'as pleinement couronné de gloire et d'honneur. Et l'ennemi, qui est le mauvais, le péché, eh bien, s'est brisé en sa révolte, il est défait. Comme dit Saint Paul en 1 Corinthiens 15, à ce moment-là, on dira, ô mort, où est ta victoire ? Et il n'y a plus de victoire de la mort. La mort a été engloutie par la vie, comme on le chante par ailleurs. Mais comme, vous voyez comment les expressions d'un psaume se sont prêtées à une relecture quand même christologique très, très puissante de la part de Saint Paul, de l'auteur de la lettre aux Hébreux d'une part, et de Saint Paul d'autre part. C'est un peu ça l'inspiration de l'écriture. L'inspiration de l'écriture, je la comprends souvent comme le psalmiste n'envisageait pas encore le mystère de la résurrection ou du retour du Christ. il contemple le mystère de la création tel qu'il le connaît à partir du livre de la Genèse et il le célèbre dans un psaume. Mais l'Esprit Saint lui a donné de s'exprimer en des termes tels qu'une fois le Christ venu, il a pu remplir ses expressions de sa présence et que l'auteur de la lettre aux Hébreux a pu comprendre, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, ce n'est pas simplement dit de l'homme dans le psaume, hein, c'est de Christ qu'il s'agit dans sa résurrection. C'est ça aussi l'inspiration, ça ne veut pas dire que l'auteur comprend d'avance la portée des mots qu'il utilise, mais l'Esprit lui inspire les mots justes qui vont pouvoir être remplis de grandeur encore plus grande que ce qu'il pouvait imaginer à ce moment-là. De même, les passages du serviteur souffrant en Isaïe, on a quand même une figure étonnante d'un serviteur de Dieu, et à un moment donné, quand le Christ arrive, on comprend que c'est lui le serviteur souffrant et victorieux par excellence. Alors les prières en écho du psaume, en plus je vous chanterai deux refrains. Le psautier de la Bible de Jérusalem, vous vous souvenez, les oraisons, on nomme Dieu, on dit ce qu'il a fait, on lui demande, et puis il y a une doxologie finale. Dieu éternel et tout-puissant, qu'est-ce qu'il a fait? Tu as fait l'univers pour que l'homme, créé à ton image, y chante la grandeur de ton nom. On sent bien que je joue le psaume et puis le récit de la Genèse. Pour que l'homme, créé à ton image, il chante la grandeur de ton nom. Et tu as voulu que ton fils, en revêtant cette nature, fût abaissé un peu au-dessous des anges. Ça, on entend hébreu. Enfin, la manière dont hébreu comprend. Pour ressusciter et couronner de gloire et de splendeur. Ben voilà l'application, l'appropriation christologique. Garde mémoire des fils du nouvel Adam. Qu'est-ce que l'homme, le fils d'Adam? Eh bien, nous sommes en même temps fils du nouvel Adam. Garde mémoire des fils du nouvel Adam, Jésus-Christ. Et prends souci que sur nos visages resplendisse un jour sa gloire. Donc, c'est le mouvement de cet homme si petit, ben, va participer à la gloire de Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Vous voyez qu'une telle oraison, les termes sont quand même choisis et par des gens qui habitent l'écriture. Et c'est pour ça que j'ai parlé un peu d'hébreu, pour que vous compreniez pourquoi on dirait, tu as voulu que ton fils fût abaissé un peu au-dessus des anges, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais on voit bien comment c'est pétri. Donc cette oraison à la faveur du psaume est pétrie déjà de sa compréhension chrétienne. Le psautier écuménique lui insiste sur la louange, c'est beau aussi, en son genre différent, Loué sois-tu notre Dieu, car tu as fait la terre pour que l'homme la domine et chante partout la splendeur de ton nom. Loué sois-tu pour Jésus ton Fils, abaissé quelque temps un peu au-dessous des anges et couronné dans la gloire, Seigneur de toutes choses. Là, on n'a pas loupé non plus ces versets saints. Loué sois-tu. Alors, je vous chante presque deux minutes de choses. D'abord, un chant que vous connaissez bien, c'est un chant du Gloria, mais dont vous n'avez peut-être pas toujours mesuré que les strophes sont directement inspirées par le psaume 8. Vous connaissez quand même le chant du « Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu sur toute la terre hein ». Hein, vous connaissez le refrain par cœur. Le refrain eh bien, fait écho à l'encadrement du psaume. La gloire de Dieu, mais c'est un gloria, donc on parle aussi sur terre aux hommes la paix. Hein? Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre aux hommes la paix. Alors écoutez bien, plus attentivement que d'habitude, les couplets. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout petits. Deuxième couplet. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui? Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes? Troisième couplet. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains et tu a mis toutes choses à ses pieds. Donc c'est un gloria un peu spécial qui entre dans le genre littéraire du gloire à Dieu, Mais les trois couplets, c'est le psaume 8. Hein? Alors je prends une interprétation du refrain. Au Seigneur notre Dieu, qu'il est grand en nous par toute la terre. Pour vous montrer comment on peut utiliser un refrain d'un psaume, ici le psaume 8, et puis créer des couplets avec des paroles d'un autre psaume. Ça, c'est la liberté créatrice d'un créateur de chant liturgique, hein, qui ne veut pas comme tel donner une interprétation du psaume 8 seulement, mais il pique le refrain du psaume 8 et il va chercher dans d'autres psaumes des paroles des couplets qu'il propose. Alors, c'est des vieilles mélodies, mais que je chantais il y a 40 ans, pour ne pas dire 45 ans. Hein. Mais vous verrez que ça a encore un peu de punch. C'est des mélodies du Pax Quartet. Et c'est le genre de choses, bon, moi que j'aime bien, mais que je ne peux plus jamais chanter, parce qu'une église comme Saint-Michel, vous ne pouvez pas chanter des chants qui sont écrits pour chanter avec 40 jeunes dans un local compact. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous voulons te bénir toujours et à jamais. Chanter ta puissance éternelle, pas de mesure à ta grandeur. Seigneur, tu es tendresse, bonté envers nous tous, plein d'amour, là, la colère, tu viens chez nous comme un ami. Ô Seigneur, tu es grand ton nom. Tu es là, plein d'amour, là, la colère, ça c'est un autre psaume, quoi. Et donc, même si ça a 40 ans, c'est quand même, ça tient la route encore, je trouve, comme mélodie pour chanter avec des jeunes. Voilà, bonne soirée, merci de votre attention.